RFI 22h à Paris, 21h à Niamey.
Joanne Burgel.
Bienvenue à tous, voici une nouvelle édition de votre journal en français facile. Pour le présenter avec moi ce soir, William Delesseux, bonsoir.
Bonsoir Joanne, bonsoir à tous.
Au sommaire, 8 personnes dont 6 Français ont été tuées au Niger. Une attaque menée par des hommes armés venus à moto dans la zone de Kouré.
La victoire annoncée d'Alexandre Loukachenko à la présidentielle biélorusse. Des milliers d'opposants ont manifesté dans les rues de Minsk. Nous serons en direct avec notre envoyé spécial.
De nouvelles manifestations. Station ce dimanche à Beyrouth, 5 jours après la double explosion meurtrière. 2 ministres du gouvernement libanais ont démissionné. De leur côté, les pays donateurs promettent une aide de plus de 250 millions d'euros.
Le journal
en français facile.
Au Niger, des hommes armés ont tué 8 personnes ce matin près du parc aux girafes de Kouré.
Les victimes sont 2 Nigériens et 6 Français. L'Élysée confirme le décès de Français sans en préciser le nombre exact. Le président Emmanuel Macron a appelé son homologue Mahamadou Issoufou. Vincent Dublange, l'attaque s'est déroulée en fin de matinée ce dimanche.
Les victimes étaient en voiture. Elles arrivaient de Niamey, la capitale, à 1 heure de route environ. Le véhicule a alors été attaqué par des hommes à moto, c'est ce qu'indique le gouverneur de la région de Tillabéri. Tous les occupants sont décédés, le chauffeur et le guide nigérien. Les Français étaient, au moins pour certains, employés de l'organisation non gouvernementale ACTED. Ce n'étaient donc pas des touristes, mais plutôt des expatriés partis explorer la région pour la journée. Une région qui ne faisait pas l'objet de consignes particulières d'évitement. Elle est classée en orange par le ministère français des Affaires étrangères. Les déplacements y sont donc déconseillés, mais pas interdits. Le parc de Kouré n'avait jamais connu d'attaque de ce type. Le gouverneur régional indique qu'il est visité par de nombreuses personnes. Il abrite les dernières girafes d'Afrique de l'Ouest. Pour autant, la zone est située non loin d'un endroit où les groupes djihadistes sont particulièrement actifs. Récemment, les militaires français et des pays riverains y ont renforcé leurs opérations.
Vincent Dublange, en direct dans le studio de RFI, merci à vous. Pas de surprise en Biélorussie après l'élection présidentielle organisée aujourd'hui, Joanne.
Le président sortant Alexandre Loukachenko est largement en tête selon un sondage officiel. Il obtiendrait près de 80% des voix. Il effectuera donc un 6e mandat après déjà 26 ans passés au pouvoir. C'est une déception pour celle qui portait l'espoir de l'opposition. Avec environ 7% des suffrages, Svetlana Tikhanovskaya, qui n'a donc pas remporté son pari. Un résultat qui suscite la colère des opposants de Loukachenko. À Minsk, où l'on rejoint en direct notre envoyé spécial Daniel Valo, des milliers de personnes sont descendues dans les rues et se sont rapidement heurtées aux forces de l'ordre.
Oui, je me suis rendu non loin du lieu de rassemblement qui avait été prévu par les partisans de l'opposition ce dimanche soir à Minsk. Et ce sont des milliers de personnes qui ont commencé dans un premier temps à converger vers ce carrefour. Très vite, ces manifestants ont été dispersés par les forces de l'ordre, très nombreuses, et qui sont intervenues très tôt dans la soirée, en tout cas dans le secteur où je me suis rendu. Des manifestants très remontés contre la police et contre ces résultats préliminaire, ce chiffre en particulier de 7% des voix pour la candidate de l'opposition, ce chiffre c'est une mascarade, me disait une habitante de Minsk venue avec plusieurs de ses amis ce soir malgré le risque d'arrestation, car les autorités biélorusses n'ont pas caché leur intention de briser toute tentative de contestation des résultats dans la rue. Le centre-ville est totalement bouclé, des véhicules militaires sont postés sur les principaux axes routiers menant à la capitale biélorusse. Enfin, le réseau Internet a été coupé, rendant impossible toute communication entre manifestants. Autre signe de fermeté de la part des autorités, les arrestations très nombreuses dans les rangs de l'opposition, dans l'équipe de campagne de Svetlana Tikhanovskaya, la dirigeante de l'opposition qui devait s'exprimer ce soir, mais son message n'aura pas été entendu par ses partisans. Privé ce soir d'Internet et donc de tout moyen de s'informer, en dehors bien sûr de la télévision d'État.
Merci pour toutes ces précisions, Daniel Valo, envoyé spécial de RFI à Minsk. Les Libanais continuent d'exprimer leur colère 5 jours après l'explosion du port.
En effet, de nouvelles manifestations ont eu lieu aujourd'hui et comme hier, des affrontements ont éclaté. Dans le centre de Beyrouth, des protestataires ont jeté des pierres et tiré des feux d'artifice en direction de la police qui a répliqué avec des tirs de gaz lacrymogène. Face à cette colère, 2 ministres du gouvernement ont démissionné ce dimanche. D'abord celle de l'information, puis celui de l'environnement dans la soirée.
Dans le même temps, l'espoir de retrouver des survivants s'amenuise.
Alors que le plus récent bilan fait état d'au moins 158 morts et plus de 6000 décès, il reste encore une vingtaine de personnes portées disparues. Leurs proches accusent le gouvernement de ne pas avoir lancé les opérations de secours assez vite. Notre envoyé spécial Pierre-Olivier a rencontré le fils de l'un des disparus.
C'est mon père qui est sous les décombres. Mon père était un des directeurs de la chambre des opérations au silo du port de Beyrouth. Il était en travail dans le temps où l'explosion a eu lieu. Maintenant, on ne sait pas où il est, quel est son destin. Et en plus, il s'est passé 40 heures sans que les machines et les équipements spécialisés soit dans la zone où ils travaillent. On a demandé où on peut aider, mais rien de leur part. Nous sommes abandonnés depuis longtemps par le gouvernement en place du Liban. Et maintenant, de plus, car avoir cette explosion dans un site très stratégique, ça donne beaucoup de questions sur les responsabilités et le rôle du gouvernement, comment il gouverne l'État.
Des propos recueillis par Pierre-Olivier et Julien Boileau.
Une aide financière internationale sera versée prochainement au Liban.
Les pays donateurs réunis ce dimanche par visioconférence ont promis un total de plus de 250 millions de dollars. 5 jours après l'explosion, sur cette somme, 30 millions d'euros seront versés par la France. Cette assistance sera mise en place sous la conduite de l'ONU. De son côté, le président américain Donald Trump demande au gouvernement libanais de mener une enquête transparente.
En Afghanistan, c'est peut-être une avancée importante vers les pourparlers de paix.
Les autorités afghanes ont annoncé la libération prochaine de 400 talibans. L'accord a été trouvé lors d'une session de la Grande Assemblée ce dimanche qui réunit des milliers de dignitaires afghans. Ces libérations étaient exigées par les talibans afin de pouvoir ouvrir des négociations de paix avec le gouvernement de Kaboul.
C'était il y a 75 ans au Japon, 3 jours après Hiroshima.
Les États-Unis larguaient une autre bombe atomique sur Nagasaki, au plutonium cette fois, plus puissante que celle à l'uranium. Bilan 70 000 victimes, dont 20 000 sur le coup. Lors de la commémoration ce dimanche, le maire de Nagasaki a lancé un appel au gouvernement japonais pour qu'il signe le traité de l'ONU d'interdiction des armes nucléaires, ratifié déjà par une quarantaine d'États. Le Japon, premier pays au monde ciblé par une attaque atomique, a toujours refusé de le faire. À Tokyo, Frédéric Charles.
Parce que victime d'un second massacre atomique inutile d'un point de vue militaire, le Japon était déjà vaincu. La ville de Nagasaki s'estime encore plus en droit de dénoncer le refus du Japon de signer le traité d'interdiction des armes nucléaires. Présent à Nagasaki, le premier ministre japonais Shinzo Abe n'a pas répondu au maire Tomihisa Toe. Le Japon dépend du parapluie nucléaire américain pour sa sécurité. Shinzo Abe cherche à réviser la constitution pacifiste pour doter le Japon de l'arme nucléaire si nécessaire. La Corée du Nord menace le Japon de ses missiles. Selon un rapport de l'ONU, elle serait parvenue à miniaturiser ses ogives nucléaires pour les placer sur ses missiles. Face à cette menace, le Japon cherche à acquérir des capacités de frappe défensive contre la Corée du Nord. En novembre dernier, à Nagasaki, le pape François a dénoncé la logique de la dissuasion nucléaire, garantissant la paix, une fausse sécurité, selon le pape, qui envenime les tensions dans le monde. Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Un mot des pluies torrentielles en Inde qui ont provoqué un glissement de terrain meurtrier.
Et le bilan est lourd, au moins 43 morts, des travailleurs d'une plantation de thé qui ont été emportés dans le sud-ouest du pays, dans l'état du Kerala. Selon des médias locaux, près de 80 personnes étaient installées sur la zone touchée, dont beaucoup sont toujours portées disparues. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous.
Très bonne soirée.
Appelez-nous.